Correspondance entre Monsieur Choderlos de Laclos et Madame Riccoboni. Lettre première. Je ne suis pas surprise qu'un fils de Monsieur de Choderlos écrive bien. L'esprit est héréditaire dans sa famille. Mais je ne puis le féliciter d'employer ses talents, sa facilité, les grâces de son style, à donner aux étrangers une idée si révoltante des mœurs de sa nation et du goût de ses compatriotes. Un écrivain distingué comme M. de Laclos doit avoir deux objets en se faisant imprimer, celui de plaire et celui d'être utile. En remplir un, ce n'est pas assez pour un honnête homme. On n'a pas besoin de se mettre en garde contre des caractères qui ne peuvent exister. Et j'invite M. de Laclos à ne jamais orner le vice des agréments qu'il a prêtés à Mme de Merteuil. Riccoboni. Réponse de M. de Laclos à Mme Riccoboni. M. de Laclos remercie bien sincèrement Mme Riccoboni de la bonté qu'elle a eue de lui faire parvenir son avis sur l'ouvrage qu'il vient de faire paraître. Il lui doit bien plus de remerciements encore de l'indulgence qu'elle a portée dans son jugement littéraire. Mais il la supplie de lui permettre quelques réclamations sur la sévérité avec laquelle elle a jugé la morale de l'auteur. M. de Laclos commence par féliciter Mme Riccoboni de ne pas croire à l'existence des femmes méchantes et dépravées. Pour lui, éclairé par une expérience plus malheureuse, il assure avec chagrin, mais avec sincérité, qu'il ne pourrait effacer aucun des traits qu'il a rassemblés dans la personne de Mme de Merteuil, sans mentir à sa conscience, sans taire au moins une partie de ce qu'il a vu. Serait-ce donc un tort d'avoir voulu, dans l'indignation de ses horreurs, les dévoiler, les combattre, et peut-être en prévenir de semblables? Si M. de Laclos peut être accusé d'avoir donné par là aux étrangers une idée si révoltante des mœurs de sa nation et du goût de ses compatriotes, il faut faire le même reproche au peintre de Lovelace, à l'auteur des égarements du cœur et de l'esprit, etc., etc. Sans quitter l'ouvrage dont il est question. Si les étrangers apportent dans ce pays la crainte salutaire des Merteuil, en sentiront-ils moins le prix des Tourvel et des Rosemonde? Et se plaindra-t-on d'eux s'ils jugent les femmes d'après ce qu'en dit cette même Madame de Rosemonde, lettre 130? Enfin, M. de Laclos n'a point cherché à orner le vice des agréments qu'il a prêtés à Madame de Merteuil. Mais il a cru qu'en peignant le vice, il pouvait lui laisser tous les agréments dont il n'est que trop souvent orné. Et il a voulu que cette parure, dangereuse et séduisante, ne pût affaiblir un moment l'impression d'horreur que le vice doit toujours exciter. Tel à peu près, au monument élevé par Pigalle, on ne voit point sans effroi, sous une draperie moelleuse, le squelette de la mort fortement prononcé. M. de Laclos n'en sent pas moins que les regards peuvent être blessés de quelques-uns des tableaux qu'il n'a pas craint de présenter. Mais son premier objet était d'être utile, et ce n'est que pour y parvenir qu'il a désiré de plaire. Quand ses lecteurs, fatigués de ces images attristantes, voudront se reposer sur des sentiments plus doux, quand ils rechercheront la nature embellie, quand ils voudront connaître tout ce que l'esprit et les grâces peuvent ajouter de charmes à la tendresse, à la vertu, M. de Laclos les invitera à relire Ernestine, Fanny, Catesby, etc., etc., etc. Et si à la vue d'aussi charmants tableaux, il doutait de l'existence des modèles, il leur dira avec confiance, ils sont tous dans le cœur du peintre. Peut-être alors conviendront-ils que c'est aux femmes seules qu'appartient cette sensibilité précieuse, cette imagination facile et riante qui embellit tout ce qu'elle touche et crée les objets tels qu'ils devraient être. Mais que les hommes, condamnés à un travail plus sévère, ont toujours suffisamment bien fait quand ils ont rendu la nature avec exactitude et fidélité. M. de Laclos osera-t-il joindre à cette justification, peut-être trop longue, un exemplaire de son ouvrage? Madame Riccoboni recevra cet hommage avec indulgence, si elle veut bien en juger moins sur sa valeur que sur le sentiment qui le fait présenter. Lettre deuxième, du 14 avril 1782. Vous êtes bien généreux, monsieur, de répondre par des compliments si polis, si flatteurs, si spirituellement exprimés, à la liberté que j'ai osé prendre d'attaquer le fond d'un ouvrage dont le style et les détails méritent tant de louanges. Vous me feriez un tort véritable en m'attribuant la partialité d'un auteur. Je le suis de si peu de choses qu'en lisant un livre nouveau, je me trouverais bien injuste et bien sotte si je le comparais aux bagatelles sorties de ma plume et croyais mes idées propres à guider celles des autres. C'est en qualité de femme, monsieur, de française, de patriote zélée pour l'honneur de ma nation, que j'ai senti mon cœur blessé du caractère de Madame de Merteuil. Si, comme vous l'assurez, ce caractère affreux existe, je m'applaudis d'avoir passé mes jours dans un petit cercle, et je plains ceux qui étendent assez leurs connaissances pour se rencontrer avec de pareils monstres. Recevez mes sincères remerciements, monsieur, de l'agréable présent que vous avez bien voulu me faire. Tout Paris s'empresse à vous lire, tout Paris s'entretient de vous. Si c'est un bonheur d'occuper les habitants de cette immense capitale, jouissez de ce plaisir. Personne n'a pu le goûter autant que vous. J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec tous les sentiments qui vous sont dus, votre très humble et très obéissante servante. Ricoboni. Réponse. C'est encore moi, madame, et je crains que vous ne me trouviez importun. Mais le moyen de ne pas répondre à votre obligeante lettre, de ne pas vous remercier de vos remerciements. Enfin, que vous dirais-je? Cette correspondance peut cesser, et même, je m'y attends. Je sens que vous avez le droit de vous taire et que je n'aurai pas celui de réclamer contre votre silence. Mais sans doute, vous ne vous attendez pas que ce soit moi qui en donne l'exemple. Ce sera bien assez de m'y conformer. J'ai appris depuis longtemps à supporter des privations, mais non pas à m'en imposer. Non, madame, je ne vous ai point soupçonné de la partialité d'un auteur. Et qui pourrait vous en inspirer? Que pourrait-on écrire qui détruisit jamais le charme de ces ouvrages délicieux que vous seul nommez des bagatelles, mais qu'on chérira toujours, tant qu'on sentira le prix des sentiments honnêtes, délicatement exprimés. Mais dites-vous, vous êtes femme et française. Eh bien, ces deux qualités ne m'effraient point. Je sens dans mon cœur tout ce qu'il faut pour ne pas redouter ce tribunal. Peut-être ces mêmes liaisons dangereuses, tant reprochées aujourd'hui par les femmes, sont une preuve assez forte que je me suis beaucoup occupée d'elles. Et comment s'en occuper et ne les aimer pas? Que si j'en ai rencontré quelques-unes, jetées en quelque sorte hors de leur sexe par la dépravation et la méchanceté. Si frappées du mal qu'elles faisaient, des mots qu'elles pouvaient faire, j'ai répandu l'alarme et dévoilé leurs coupables artifices. Qu'ai-je fait en cela? Que servir les femmes honnêtes? Et pourquoi me reprocheraient-elles d'avoir combattu l'ennemi qui faisait leur honte et pouvait faire leur malheur? Mais poursuit-on, vous créez des monstres pour les combattre. De telles femmes n'existent point. Supposons-le, j'y consens. Alors pourquoi tant de rumeurs? Quand Don Quichotte s'arma pour aller combattre les moulins à vent, quelqu'un s'avisa-t-il d'en prendre la défense? On le plaignit, on ne l'accusa point. Revenons à la vérité. On insiste et l'on me demande, Madame de Merteuil a-t-elle jamais existé? Je l'ignore. Je n'ai point prétendu faire un libelle. Mais quand Molière peignit le Tartuffe, existait-il un homme qui, sous le manteau de la religion, eût entrepris de séduire la mère dont il épousait la fille, de brouiller le fils avec le père, d'enlever à celui-ci sa fortune, et de finir par se rendre le délateur de sa victime pour échapper à ses réclamations? Non, sans doute, cet homme n'existait pas. Mais vain, mais cent hypocrites avaient commis séparément de semblables horreurs. Molière les réunit sur un seul d'entre eux et le livra à l'indignation publique. Vous ne me soupçonnerez pas sans doute de me comparer à Molière. Mais j'ai pu comme lui rassembler dans un même personnage les traits épars du même caractère. J'ai donc peint, ou au moins j'ai voulu peindre, les noirceurs que des femmes dépravées s'étaient permises, en couvrant leurs vices de l'hypocrisie des mœurs. Si aucune femme ne se livrait à la débauche en feignant de se rendre à l'amour, si jamais une autre n'a facilité, provoqué même, la séduction de sa compagne, de son ami. S'il ne s'en trouve point, qui ait voulu perdre, qui ait perdu en effet son amant, devenu trop tôt infidèle. Si l'on n'en a point vu, dans ce choc des passions viles, se permettre un grand mal pour un très léger intérêt. Si enfin ce mot de gaieté n'a pas été profané, indistinctement par les hommes et par les femmes, pour exprimer des horreurs qui doivent révolter toute âme honnête. Si tout cela n'est point, j'ai eu tort d'écrire. Mais qui osera nier ces vérités de tous les jours? Voilà, madame, une partie des raisons que je me suis dites avant de publier mon ouvrage, et que peut-être je serai obligée de dire un jour à tout le monde. J'en ai d'autres encore, mais ce n'est pas avec vous qu'il est besoin de tout dire. J'ajouterai cependant que madame de Merteuil n'est pas plus une Française qu'une femme de tout autre pays. Partout où il naîtra une femme avec des sens actifs et un cœur incapable d'amour, quelque esprit et une âme vile, qui sera méchante et dont la méchanceté aura de la profondeur, sans énergie. Là, existera madame de Merteuil, sous quelque costume qu'elle se présente, et seulement avec des différences locales. Si j'ai donné à celle-ci l'habit français, c'est que persuadée qu'on ne peint avec vérité qu'en peignant d'après nature, je préférais la draperie que je pouvais avoir sous mes yeux. Mais l'œil exercé dépouille aisément le modèle et reconnaît le nu. Soyez donc, madame, femme et française. Chérissez votre sexe et votre patrie, qui tous deux doivent s'honorer de vous posséder. J'y trouverai un motif de plus de désirer votre suffrage, mais non une raison nouvelle pour ne pas l'obtenir. J'ai l'honneur d'être, madame, etc. Lettre troisième, vendredi 19 avril 1782. Me croire dispensé de vous répondre, monsieur, et me donner votre adresse, c'est au moins une petite contradiction. On vous aura dit que j'étais farouche. Je le suis, en effet. Mais l'antre où je me cache ne m'a pas rendu tout à fait impoli, et je reconnaîtrais mal la bonne opinion que vous daignez avoir de mon caractère si je paraissais insensible aux égards dont vous m'honorez. Une de vos expressions me semble assez singulière. Un militaire, maître au rang de ses privations, la négligence d'une femme dont il a pu entendre parler à sa grand-mère. Cela ne vous fait-il pas rire, monsieur? Vous avez la fantaisie de me persuader, même de me convaincre par vos raisonnements, qu'un livre où brille votre esprit est le résultat de vos remarques et non l'ouvrage de votre imagination. N'est-ce pas là votre idée? En le supposant, toutes les campagnes n'offrent point l'aspect d'un joli paysage, et c'est au peintre à choisir les vues qu'il dessine. Oui, sans doute. Monsieur, on a montré avant vous des monstres détestables, mais leur vie s'est punie par les lois. Tartuffe, que vous chargez à tort d'un désir incestueux, est un voleur adroit, mis à la fin de la pièce entre les mains de la justice. Molière a dû rassembler des traits frappants sur ce personnage, le théâtre exigeant une action vive et pressée. Votre second exemple, Lovelace, est un être de raison. La passion vraiment forte, vraiment tendre, que Richardson lui donne pour Clarisse, le met absolument hors de la nature. Votre libertin, indifférent et vain, s'en rapproche bien davantage. Il trompe, il trahit de sang-froid, ce qu'un homme amoureux ne saurait faire. Malgré tout votre esprit, malgré toute votre adresse à justifier vos intentions, on vous reprochera toujours, monsieur, de présenter à vos lecteurs une vile créature, appliquée dès sa première jeunesse à se former au vice, à se faire des principes de noirceur, à se composer un masque, pour cacher à tous les regards le dessein d'adopter les mœurs d'une de ces malheureuses que la misère réduit à vivre de leur infamie. Tant de dépravations irritent et n'instruisent pas. On s'écrie à chaque page « Cela n'est point, cela ne saurait être ». L'exagération ôte au précepte la force propre à corriger. Un prédicateur emporté, fanatique, en damnant son auditoire, n'excite pas la moindre réflexion salutaire. Il en a trop dit, on ne le croit pas. Ce sont les vérités douces et simples qui s'insinuent aisément dans le cœur. On ne peut se défendre d'en être touché parce qu'elles parlent à l'âme et l'ouvrent au sentiment dont on veut la pénétrer. Un homme extrêmement pervers est aussi rare dans la société qu'un homme extrêmement vertueux. On n'a pas besoin de prévenir contre les crimes. Tout le monde en conçoit de l'horreur. Mais des règles de conduite seront toujours nécessaires, et ce sera toujours un mérite d'en donner. Vous avez tant de facilité, monsieur, un style si aimable. Pourquoi ne pas les employer à présenter des caractères que l'on désire d'imiter? Vous prétendez aimer les femmes? Faites-les donc taire, apaisez leurs cris et calmez leur colère. Vous ne savez pas, monsieur, combien vous regretterez un jour leur amitié. Elle est si douce, elle devient si agréable à votre sexe, quand ses passions amorties lui permettent de ne plus les regarder comme l'objet de son amusement. Les hommes s'estiment, se servent, s'obligent même. Mais sont-ils capables de ces attentions délicates, de ces petits soins, de ces complaisances continuelles et consolantes, dont l'amitié des femmes fait seule goûter les charmes? Changez de système, monsieur, ou vous vivrez chargé de la malédiction de la moitié du monde, excepté de la mienne pourtant, car je vous pardonne de tout mon cœur, et je vous excuserai même, autant que je le pourrai, sans me faire arracher les yeux. J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très humble et très obéissante servante, Riccoboni. Réponse. Vous croire dispensé de me répondre, madame, et vous donner mon adresse, c'est en effet une petite contradiction. Mais désirer de recevoir vos lettres et ne pas vous donner le moyen de me les faire parvenir en eût été une autre. Forcé de choisir, j'ai préféré, je l'avoue, le parti de mes désirs à celui de mes craintes. Ce que je ne voulais pas devoir à mon indiscrétion, j'espérais l'obtenir de votre politesse. Et il est si difficile de s'arrêter dans ses désirs que je souhaite actuellement mériter qu'au moins par la suite, votre politesse ne soit plus le seul motif de votre correspondance. Je m'attends encore que cet espoir sera déçu, et cependant, si je connaissais quelques moyens pour qu'il ne le fût pas, je n'en négligerais aucun. C'est toujours même conduite, comme vous voyez, et que ce soit votre faute ou la mienne, j'ai bien peur de ne pas me corriger. Je ne peux pas même gagner sur moi de ne pas trouver une privation dans votre silence. Et cependant, je me rappelle fort bien d'avoir entendu, comme vous dites, madame, parler de vous à ma grand-mère. J'en parle même encore tous les jours avec mon père, qui n'est plus jeune, et pour tout dire, je ne le suis plus moi-même. Mais nos petits-neveux parleront aussi de vous à leur tour, et si après vous avoir lu, ils ne regardaient pas comme une privation de ne plus avoir à vous lire, j'estimerais bien peu le goût de la postérité. Je vous pardonne de me trouver ces torts par le plaisir que je trouve à m'en justifier. Il n'en est pas de même de ce que vous trouvez à mon ouvrage. Une longue justification est si près d'être une justification ennuyeuse qu'il ne faut pas moins que le cas infini que je fais de votre suffrage pour me donner le courage de revenir sur ces objets. Je conviens avec vous, madame, que toutes les campagnes n'offrent point l'aspect d'un joli paysage et que c'est au peintre à choisir les vues qu'il dessine. Mais si quelques-uns nous plaisent par le choix des citriens, rejetterons-nous entièrement ceux qui préfèrent pour leurs tableaux les rochers, les précipices, les gouffres et les volcans? Et la paisible habitante de Paris sera-t-elle autorisée à reprocher au peintre du Vésuve de calomnier la nature? Mais quoi? Le même pinceau ne peut-il pas s'exercer tour à tour dans les deux genres? Si je m'en souviens bien, Vernet fit son tableau de la tempête avant celui du calme, et l'un n'a pas nuit à l'autre. Ce n'est pas que pour mon compte, je m'engage à courir l'autre carrière. Et qui osera se croire le talent nécessaire pour peindre les femmes dans tous leurs avantages, pour rendre comme on le sent, et leur force, et leur grâce, et leur courage, et même leur faiblesse, toutes leurs vertus embellies, jusqu'aux défauts devenus séduisants. La raison sans raisonnement, l'esprit sans prétention, l'abandon de la tendresse et la réserve de la modestie, la solidité de l'âge mûr et l'enjouement folâtre de l'enfance. Que sais-je? Mais surtout, comment ne pas laisser là le tableau pour courir après le modèle? Rousseau osa fixer Julie. Il essaya de la peindre. Il porta l'enthousiasme jusqu'au délire. Et 20 fois cependant, il resta au-dessous de son sujet. Sans doute, une femme née avec une belle âme, un cœur sensible et un esprit délicat peut répandre sur les portraits qu'elle trace une partie du charme qu'elle possède. Elle jouit dans son travail d'une paisible facilité. Elle ne fait en quelque sorte que donner une contre-épreuve d'elle-même. Mais quel homme assez froid peut faire une étude tranquille de ce modèle enchanteur? Quelle main ne sera pas tremblante? Quels yeux ne seront point troublés? Et si cet homme impassible existe, par là même, il ne sera qu'une image imparfaite. Dans son tableau, sans vie et sans chaleur, je ne retrouverai plus la femme qu'il faut aimer. Celle-là ne peut se reconnaître qu'au transport qu'elle excite, et celui qui les ressent s'occupe-t-il à les peindre? Vous voyez, madame, combien je suis loin encore de faire taire les femmes, d'apaiser leurs cris et de calmer leur colère. Heureusement, j'avais déjà quelques-unes d'elles pour amies, et mon criminel ouvrage ne m'a point encore attiré leur malédiction. Je me rappelle à ce sujet un mot de Julie, qui disait en parlant de Dieu, « Les réprouvés, dit-on, le haïssent. Il faudrait donc qu'il m'empêchât de l'aimer. » J'ose dire comme elle, « Je mets trop de prix à l'amitié des femmes pour ne pas espérer de la conserver, peut-être même d'en obtenir encore. Pour vous, madame, il y aurait sûrement de l'indiscrétion à vous demander plus que de l'indulgence. Je sens qu'il faut m'arrêter ici pour ne pas tomber encore dans une petite contradiction. » Cette longue lettre ne répond, comme vous voyez, qu'à une partie de la vôtre, et je n'ai même dit encore qu'une partie de mes raisons sur les objets dont j'ai parlé. Si vous craignez un second volume, il sera nécessaire que vous me le fassiez savoir bientôt. J'ai l'honneur d'être, etc. Seconde réponse à la même lettre. Cette lettre n'est, madame, que la continuation de celle que j'ai eu l'honneur de vous écrire il y a quelques jours. Il me semble que votre silence me donne le droit de poursuivre, et j'en profite pour éclaircir les objets qui me restent à traiter avec vous. Je n'ai point prétendu charger Tartuffe d'un désir incestueux. Si je n'ai pas désigné Marianne par le mot de belle-fille, c'est qu'écrivant sur un sujet si connu, j'étais assurée d'être entendue. C'est de plus que je ne prétendais pas apprécier le péché, mais seulement le procédé. Or l'action, considérée sous cette face, et relativement à Orgon, me paraît absolument la même. Il n'en est pas moins vrai que l'expression n'est pas exacte, et j'aurais dû dire de séduire la femme de l'homme dont il épousait la fille. Je me permets à mon tour une observation sur ce que vous me dites de cette pièce. C'est que Tartuffe n'est point puni par les lois, mais par l'autorité. Je fais cette remarque parce qu'il me semble que le droit du moraliste, soit dramatique, soit romancier, ne commence qu'où les lois se taisent. Molière lui-même paraît si bien être de cet avis qu'il a pris soin de mettre à l'abri des atteintes de la loi jusqu'à la donation irrégulière d'Orgon à Tartuffe. C'est qu'en effet, les hommes, une fois rassemblés en société, n'ont droit de se faire justice que des délits que le gouvernement ne s'est pas chargé de punir. Cette justice du public est le ridicule pour les défauts et l'indignation pour les vices. La punition de Tartuffe n'est elle-même qu'une suite de l'indignation du prince, et le châtiment est motivé sur d'autres actions que celles qui se sont passées dans le cours de la pièce. Mais combien cette salutaire indignation publique n'est-elle pas utile à réveiller sur les vices en faveur desquels elle semble se relâcher? C'est ce que j'ai voulu faire. Madame de Merteuil et Valmont excitent, dans ce moment, une clameur générale. Mais rappelez-vous les événements de nos jours, et vous retrouverez une foule de très semblables dont les héros des deux sexes ne sont ou n'ont été que mieux accueillis et plus honorés. J'ajoute même que je me suis particulièrement privée de quelques traits qui manquent à mes caractères par la seule raison qu'ils étaient trop récents et trop connus, et que l'honnête homme, en diffamant le vice, répugne cependant à diffamer les vicieux. Les mœurs que j'ai peintes ne sont pourtant pas, madame, celles de ces malheureuses que la misère réduit à vivre de leur infamie. Mais ce sont celles de ces femmes, plus viles encore, qui savent calculer ce que le rang ou la fortune leur permettent d'ajouter à ces vices infâmes, et qui en redoublent le danger par la profanation de l'esprit et des grâces. Le tableau en est attristant, je l'avoue, mais il est vrai. Et le mérite que je reconnais à tracer des sentiments qu'on désire d'imiter n'empêche pas, je crois, qu'il soit utile de peindre ce dont on doit se défendre. Je ne finirai pas cette lettre sans vous remercier, madame, de l'honnêteté avec laquelle vous avez combattu mon avis, et même encore de la complaisance que vous avez eue de la combattre. Et si je me félicite d'avoir fixé un moment, sur moi, l'attention volage du public, c'est particulièrement par l'occasion que j'y ai trouvée de faire parvenir jusqu'à vous, et de pouvoir vous adresser moi-même, l'assurance et l'hommage des sentiments d'estime et de respect que je vous ai voués pour la vie. J'ai l'honneur d'être, etc. Lettre quatrième du vendredi. Avec de l'esprit, de l'éloquence et de l'obstination, on a souvent raison, monsieur, ou du moins, on réduit au silence les personnes qui n'aiment ni à disserter, ni à soutenir leur opinion avec trop de chaleur. Permettez-moi donc de terminer une dispute dont nos derniers neveux ne verraient pas la fin si elle continuait. Le brillant succès de votre livre doit vous faire oublier ma légère censure. Parmi tant de suffrages, à quoi vous servirait celui d'une cénobite ignorée? Il n'ajouterait point à votre gloire. Dire ce que je ne pense pas me paraît une trahison, et je vous tromperais en feignant de me rendre à vos sentiments. Ainsi, monsieur, après un volume de lettres, nous nous retrouverions toujours au point d'où nous sommes partis. J'ai l'honneur d'être votre très humble et très obéissante servante, Ricoboni.